VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, bienvenue à cette édition du lundi 21 décembre 2015. À la une ce soir.
Les deux plus puissantes figures du football mondial, Sepp Blatter et Michel Platini, suspendus pour 8 ans par la justice interne de la FIFA.
Burundi, après la présidence, c'est le Parlement qui rejette l'envoi de troupes régionales sur le sol burundais pour enrayer les violences.
Burkina Faso, affaire Thomas Sankara. La justice annonce l'émission d'un mandat d'arrêt contre l'ex-président Blaise Compaoré.
En Afghanistan, les talibans attaquent. Au moins 6 soldats de l'OTAN ont été tués aujourd'hui près de Kaboul. Mais les insurgés revendiquent un bilan plus lourd.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports.
Mais d'abord, le journal.
Abus de position, conflit d'intérêts et gestion déloyale. Ce sont les trois charges retenues contre le président de la FIFA, Sepp Blatter, et le président de l'UEFA, Michel Platini. Les deux leaders du foot mondial ont été suspendus 8 ans de toute activité liée au ballon rond. Les premières réactions avec Salwa Jafari.
Je suis toujours président, je suis toujours le président, même suspendu, je suis le président. Le président doit être relevé de ses fonctions, sinon vous n'allez pas pouvoir choisir un autre président. Je n'ai pas honte, je regrette, mais je n'ai pas honte.
Un Blatter qui visiblement n'a pas perdu de sa défiance, même si c'est sa FIFA qui le met à la touche aujourd'hui. La charge de corruption n'a toutefois pas été retenue contre lui, ni contre son présumé acolyte français.
Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces juges indépendants?
Je ne dirai pas plus que ce que je vous ai dit à vous. J'ai dit la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité. Mais je le jure.
Les conséquences de ce verdict sont plus néfastes pour Michel Platini, qui avait pour ambition de se présenter à la présidence de la FIFA le 26 février prochain. À 60 ans, il avait des chances considérables pour prendre la relève à la tête du football mondial, comme Blatter. Il fera appel, mais il ratera sans doute l'enregistrement des candidatures le 26 janvier prochain. Au cœur de ce dossier, le versement contesté d'€1,8 million en 2011 par Blatter à Platini, son contrat écrit pour un travail de conseiller achevé en 2002.
Et si vous voulez en savoir davantage, ne ratez pas Sporama à 19h, temps universel sur VOA Afrique. Burundi, l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès ont refusé devant les représentants de la communauté internationale l'envoi de troupes régionales, comme l'avait demandé le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Les autorités législatives annoncent que la paix règne sur toute l'étendue du territoire burundais et que le génocide est impossible dans ce pays des mille et une collines voisin du Rwanda. La crise actuelle fait suite au troisième mandat contesté de Pierre Nkurunziza. Un reportage de notre correspondant Christophe Nkurunziza.
Les parlementaires et sénateurs burundais se sont réunis ce lundi en congrès, une situation qui arrive très rarement, sauf à des circonstances prescrites par la loi. Le président de l'Assemblée nationale a profité de l'occasion pour accuser certains pays et lobbies étrangers comme la Belgique qui veulent se substituer aux représentants du peuple. Tous les représentants du peuple qui se sont exprimés ont affirmé que ces 5000 militaires africains, s'ils arrivent à Bujumbura, voudront créer une milice et le chaos. Tous ont répété à qui veut l'entendre que la paix est totale au Burundi à 88%, comme aime bien le déclarer le président de la République, Pierre Nkurunziza. Mais l'ancien opposant Agathon Rwasa, qui a rejoint les institutions, a une position assez mesurée et équilibrée. Il a déclaré que même si une colline du Burundi connaît des problèmes sécuritaires, le problème peut être national, car le Burundi est une même nation indivisible. Il a indiqué qu'il faut faire attention, car cette insécurité peut se propager dans d'autres localités du pays. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Au Burkina Faso, l'affaire Thomas Sankara défraie toujours l'actualité. Ce matin, la justice burkinabé a annoncé que les tests ADN sur les restes de Sankara n'ont pas été concluants. Par ailleurs, Bagué Sikoura, on apprend que l'ancien président Blaise Compaoré fait l'objet d'un mandat d'arrêt.
Oui, on l'a appris aujourd'hui, la justice burkinabé a lancé depuis le 4 décembre un mandat d'arrêt contre Blaise Compaoré. Ce dernier vit en Côte d'Ivoire depuis sa fuite du pouvoir en octobre 2014. Par ailleurs, la justice burkinabé a révélé que les tests ADN sur les restes de Thomas Sankara et de ses 12 compagnons n'ont pas été concluants. Maître Sankara, avocat de la famille.
Au troisième niveau, l'expertise scientifique conclut qu'il n'y a pas d'ADN détectable conformément à l'état actuel de la science.
Lors de l'audience ce matin au tribunal militaire de Ouagadougou, le général Gilbert Diendéré, inculpé dans l'affaire Sankara, a comparu. L'ancien bras droit de Blaise Compaoré, auteur du coup d'état manqué de septembre dernier, ne portait pas de menottes. Thomas Sankara et 12 autres compagnons ont été abattus le 15 octobre 1987 lors du coup d'état qui a porté Blaise Compaoré au pouvoir.
Lutte contre le djihadisme au Sahel. Les forces françaises disent avoir abattu 2 terroristes lors d'opérations dans le nord du Mali et le nord du Niger entre fin octobre et début décembre dans le cadre de la mission Barkhane. D'après l'AFP, leur identité n'a pas été divulguée. Une vingtaine de caches auraient été découvertes et 6 pick-up interceptés.
Attaque suicide dans le nord-est du Nigeria. 6 personnes ont été tuées hier par un enfant kamikaze à Benishek, dans l'état de Borno. L'armée explique que 3 adolescents et de 10 à 15 ans ont été stoppés par les membres d'un groupe d'autodéfense civile qui les soupçonnait de vouloir commettre un attentat. L'un des kamikazes a alors actionné sa ceinture d'explosifs. Les 3 jeunes assaillants sont également morts.
Violence à Djibouti durant une commémoration religieuse. Cherchant à disperser la foule, les forces de sécurité ont ouvert dans la banlieue de Balbala, un bastion de l'opposition à Djibouti. Elles ont ouvert le feu. Plusieurs personnes sont mortes, d'après des témoins contactés par le service Somali de la VOA.
Retour sur l'objet suspect retrouvé hier dans un vol Air France Maurice Paris. Un policier à la retraite de 58 ans qui était à bord de l'avion a été placé en garde à vue. Sa femme est entendue comme témoin. Et d'après l'AFP, citant une source judiciaire, ils ont été interpellés par la police des frontières à leur arrivée en France.
Guinée, le président réélu Alpha Condé a été investi aujourd'hui pour un deuxième mandat de 5 ans. Il a prêté serment au cours d'une brève cérémonie en présence du chef de l'État gambien Yahya Jammeh. Alpha Condé avait déjà prêté serment une première fois le 14 décembre, mais il n'avait pas lu le passage l'engageant à faire respecter la loi lors de cette première prestation de serment.
Guerre civile au Soudan du Sud, des représentants de la rébellion contrôlant l'est du pays sont arrivés dans la capitale, Djouba. La délégation, qui ne comprend pas le chef des rebelles, l'ancien vice-président Riek Machar, doit négocier la formation d'un gouvernement de transition et d'union nationale.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Attentat en Afghanistan, un porte-parole de l'OTAN a confirmé qu'un kamikaze à moto a attaqué une patrouille conjointe OTAN-armée afghane près de la base aérienne de Bagram, non loin de Kaboul. Bilan provisoire, 6 soldats de l'OTAN tués et 3 autres blessés. Timothée Donangmaï.
Selon Michael Lohorn, un porte-parole de l'Alliance Atlantique à Kaboul, les autorités ont ouvert une enquête sur l'explosion qui s'est produite en milieu de journée près de la plus grande installation militaire américaine en Afghanistan. Dans une annonce sur les réseaux sociaux, les talibans en ont revendiqué la responsabilité, affirmant que l'attaque a fait 19 morts pour la plupart des soldats américains. Cependant, la nationalité des victimes n'a pas été rendue publique. En outre, dit l'AFP, les insurgés ont l'habitude de gonfler les bilans de leurs attaques contre les forces armées. L'attentat de ce lundi fait partie d'une campagne lancée au printemps par les insurgés dans tout l'Afghanistan. On signale également de féroces combats pour le contrôle d'un district clé de la province de Helmand, fief des talibans dans le sud du pays. À un an tout juste de la fin de la mission de combat de l'OTAN en Afghanistan, les talibans ont intensifié leur insurrection lancée à la chute de leur régime en 2001.
L'Union européenne a renouvelé jusqu'au 31 juillet 2016 les sanctions prises à l'encontre de Moscou à cause de son implication dans la crise en Ukraine. En dépit d'une trêve signée plus tôt cette année, le gouvernement ukrainien affirme ne pas avoir le contrôle de sa frontière avec la Russie. Le Parlement russe avait approuvé en mars 2014 l'annexion de la Crimée quelques semaines seulement après que des manifestants pro-occidentaux à Kiev eurent forcé le départ du président Viktor Yanukovych, soutenu par les Russes.
Politique américaine, les Républicains ont un candidat en moins dans la course à l'investiture du parti pour la présidentielle de 2016. Lindsey Graham, sénateur de la Caroline du Sud, a jeté l'éponge aujourd'hui, disant que son heure n'est pas encore arrivée. Farouche défenseur d'une présence militaire accrue des États-Unis à l'étranger, Graham n'a pas réussi à décoller dans les sondages. En laissant la course, Lindsey Graham a dit croire que le candidat du parti en 2016 adoptera son plan pour détruire les militants du groupe État islamique, savoir l'envoi de troupes au sol, une idée rejetée par le président Obama et la principale candidate démocrate, Hillary Clinton.
Un tribunal de Manama a condamné aujourd'hui à la prison à vie 5 personnes jugées sous l'accusation d'avoir fabriqué et utilisé des explosifs à Bahreïn, un petit pays du Golfe secoué par intermittence depuis 2011 par des troupes selon l'agence officielle BNA.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Idrissa Seydoudia.
Le Burkina Faso a réalisé un taux de 104,07% pour l'émission de bons de trésor d'une valeur de 30 milliards de francs CFA, lancé le 15 décembre dernier, a appris l'agence APA lundi, auprès du ministère de l'Économie et des Finances. 36 soumissions ont été enregistrées pour un montant global de 31,2 milliards de francs CFA. Le budget 2016 de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, ASECNA, s'élève à 203 milliards de francs CFA, a annoncé lundi à Dakar Jean-François Thibault, le président du conseil d'administration de l'institution, qui a souligné que les états financiers de l'agence se portent bien. Wall Street a ouvert en hausse lundi, les deux précédentes séances de forte baisse encourageant une chasse aux bonnes affaires de la part des investisseurs qui n'étaient pas déjà en congé. Le Dow Jones prenait 0,63%, le Nasdaq 0,66% et 0,65% pour l'indice LRG S&P, très suivi par les investisseurs. Le pétrole a ouvert en légère baisse lundi à New York, continuant d'évoluer à ses plus bas niveaux depuis plusieurs années face au déséquilibre entre offre et demande dans un marché déserté à l'entame d'une semaine de Noël.
La Minute Éco, merci Idrissa.
Et pour les sports, on a en studio Nicolas Pino. Salut Nicolas.
Bonsoir Chérubin.
Alors, suite du scandale FIFA qu'on a évoqué dans le journal, Platini n'a pas dit son dernier mot.
Eh oui, il s'est exprimé par l'intermédiaire de son avocat, maître Thibaut Dallès. Ce dernier a expliqué à l'agence France-Presse le cynisme procédural, selon lui, de la justice interne de la FIFA, car les motivations de sa suspension nécessaires pour faire appel ne lui seront communiquées qu'au cours de la première moitié du mois de janvier 2016. Et c'est important, évidemment, Chérubin, le temps presse pour Platini, puisqu'on sait que les candidatures à la présidence de la FIFA seront définitivement enregistrées le 26 janvier, soit un mois avant le scrutin, puisque l'élection aura lieu le 26 février 2016.
Alors Nicolas, est-ce qu'on va reparler de cette affaire dans Sporama à 19h temps universel ?
On en reparlera tout à l'heure avec nos consultants et les auditeurs.
Alors maintenant, les étalons du Faso sans entraîneur.
Gernot Rohr n'est plus le sélectionneur du Burkina Faso. Le technicien franco-allemand a annoncé sur sa page Facebook qu'il quittait son poste sur le banc des étalons qu'il occupait depuis le printemps 2015, dans le cadre de sa désignation par les instances allemandes d'ambassadeur de football 2015, Gernot Rohr va faire profiter le football local de la donation qui accompagne cette distinction. Il écrit donc sur sa page Facebook qu'il n'aura pas le temps de saluer tous ses amis burkinabés avant son départ.
Et Pep Guardiola quittera le Bayern en fin de saison.
Eh oui, l'entraîneur espagnol a informé la direction du Bayern Munich de sa décision de quitter le club à la fin de la saison. C'était il y a 2 semaines. Il s'en est presque excusé, a révélé aujourd'hui le président du club bavarois Karl-Heinz Rummenigge dans le quotidien allemand Bild. Le club champion d'automne a annoncé dimanche que Pep Guardiola, après 3 ans sur le banc munichois, quitterait la Bavière à la fin de la saison. Il sera remplacé par l'italien Carlo Ancelotti.
Et NBA, championnat de basket nord-américain, les derniers résultats, Nicolas.
Ouais, le calvaire qui continue pour Philadelphie. Cleveland s'est montré sans pitié dimanche avec Philadelphie, dominé 108 à 86. Philadelphie est bien partie pour devenir la pire équipe de l'histoire de la NBA. Les Sixers restent bloqués à une seule victoire en 29 matchs. Jamais une équipe n'a présenté un bilan aussi catastrophique à ce stade de la saison. Un dernier résultat, Miami qui a dominé Portland 116 à 109, qui s'est bien repris après la défaite à domicile domicile contre Toronto.
Merci Nicolas Pinot.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guiriec et Chérubin Dorsil en votre compagnie, place au dossier du jour.
Le couperet est tombé pour les deux maîtres de la planète football. Joseph Blatter, président de la FIFA depuis 1998, et Michel Platini, président de l'UEFA depuis 2007, ont été suspendus 8 ans de toute activité liée au football en raison du fameux paiement controversé de 1,8 million d'euros au Kilili. La charge de corruption n'a pas été retenue contre les deux hommes par le tribunal interne de la FIFA, qui les juge coupables en revanche d'abus de position, de conflits d'intérêts et de gestion déloyale. Pour une analyse, Nicolas Pinot a joint le journaliste François Tomaso. Il est l'auteur du livre « L'imposture du sport ».
Le point rassurant dans cette affaire, c'est que la commission d'éthique de la FIFA, mise en place par Sepp Blatter lui-même et qu'on avait beaucoup critiqué à l'époque de la révélation du rapport du procureur Garcia sur cette corruption à la FIFA, cette commission d'éthique est allée jusqu'au bout du processus en condamnant les deux personnalités de la politique du football mondial. Donc je pense qu'il y avait aussi peut-être derrière cette décision l'envie de démontrer, de se rattraper déjà, et de démontrer une forme d'indépendance. Donc ça, c'est même si c'est peut-être un peu excessif, un peu tardif aussi, c'est peut-être le signe que les choses vont dans le bon sens.
Quelle est la suite selon vous ?
C'est d'autant plus difficile à dire qu'on ne sait pas du tout qui va succéder maintenant à Blatter ou à Platini, puisque le successeur entre guillemets désigné de Blatter semblait être Platini, qui se présentait un peu comme le chevalier blanc et celui qui allait amener justement ce renouveau. Ce ne sera pas lui. Ça va beaucoup dépendre de la personnalité du prochain président de la FIFA. Pour l'instant, on ne voit pas dans les candidats qui se sont déclarés jusqu'à présent de renouvellement fondamental et de moralisation des choses.
En France, Michel Platini bénéficie d'un soutien très fort de la part des médias. Est-ce justifié selon vous ?
Bah non, s'il était anglais ou italien, tout le monde trouverait ça normal. C'est vrai que Platini bénéficiait d'une image, c'est un peu un saint civil, hein, avec, par le joueur qu'il a été, par l'influence qu'il a eue comme capitaine de l'équipe de France, puis ensuite comme entraîneur, et puis ensuite comme organisateur de cette grande messe qui était la Coupe du Monde 98. Voilà, c'est un intouchable quelque part. Et donc la France a été très choquée. Maintenant, il y a eu un procès, il a été jugé. Il est passé une première fois devant le TAS, il va sans doute y repasser, continuer son combat judiciaire. Malheureusement, voilà, un procès a eu lieu qui a été fait dans les formes par une commission indépendante qui semble offrir toutes les garanties de justice équitable. On n'est pas devant un tribunal dictatorial. Ce sont des gens qui ont été mis en place justement par Joseph Blatter lui-même pour leur indépendance et pour moraliser le football. Il est un peu étrange que Michel Platini se retourne contre des juges dont quelque part il avait souhaité la mise en place. Au final, il a quand même fait une erreur, et cette erreur, il la paye.
Et c'était le journaliste François Tomaso, auteur du livre « L'imposture du sport ».
Ni une force de l'Union africaine, ni le départ du président Pierre Nkurunziza résoudrait la crise burundaise. C'est la réaction d'un des partis politiques du Burundi après le feu vert de l'Union africaine vendredi pour la création d'une mission militaire forte de 5000 hommes afin d'enrayer le cycle des violences au Burundi. Le gouvernement de Bujumbura a déjà annoncé qu'il n'autoriserait pas le déploiement sur son sol de cette mission qui serait considérée comme une force d'invasion et d'occupation. Jacques Aristide s'est entretenu avec Jean de Dieu Moutabazi de la coalition des partis pour une opposition participative.
Les Nations Unies, vous savez très bien qu'ils n'ont pas endossé la décision de l'Union africaine ou bien le communiqué du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine dans sa 565e réunion du 17 décembre qui a décidé le déploiement d'une mission africaine de prévention et de protection au Burundi. Ce que nous demandons à la communauté internationale, c'est de demander à l'Union africaine de revenir sur sa décision parce que l'Union africaine est en contradiction avec la majorité des pays africains qui sont membres de l'Union africaine. Deuxièmement, l'Union africaine est en contradiction avec la position des Nations Unies. Alors, ce que la communauté internationale, nous leur demandons aujourd'hui, premièrement, c'est encore une fois de demander à l'Union africaine de revenir sur ses pas pour qu'ils puissent être en harmonie. Autre chose que nous demandons à la communauté internationale, c'est d'aider l'opposition pacifique à encourager le gouvernement de rejoindre la table de dialogue inclusif qui n'exclut personne.
Pour vous, il faut donc privilégier le dialogue pour éviter le pire.
Oui, nous devons éviter le pire parce que la majorité du peuple burundais, plus de 95% de la population, elle est déterminée à opposer une résistance à ces forces qui sont demandées au cas où elles venaient. Personne ne pourrait l'accepter. Et cela, en cas de dérapage, nous prévenons l'Union africaine que, en cas de dérapage, ces dérapages seront sur la tête de l'Union africaine parce qu'elle a décidé, en dehors de la consultation qui devait avoir lieu avec la majorité des pays membres. C'est une décision grave qui devait requérir l'adhésion des chefs d'État membres de l'Union africaine.
Alors, quelle est la solution pour régler la crise burundaise? Le départ du président Nkurunziza?
Moi, je ne crois pas que son départ pourrait stopper les gens de l'opposition radicale parce qu'avoir la violence avec laquelle ils se sont déjà portés, c'était pour tout simplement prendre le pouvoir par la force parce que nous l'avons vu le 13 mai de cette année. Nous l'avons vu la violence lors des insurrections. Nous l'avons vu avec les attaques des différents camps militaires dernièrement, le 11 de ce mois, ça veut dire que pour nous, toute solution pourra provenir du dialogue inclusif. Comme nous avons déjà organisé des élections, nous allons maintenant encourager un dialogue inclusif pour qu'on puisse organiser des élections transparentes, régulières en 2020.
On écoutait Jean de Dieu Moutabazi de la Coalition des partis pour une opposition participative, joint à Bujumbura.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Au Rwanda, le oui a obtenu 98,4% des voix contre 1,6% au non dans le référendum de vendredi qui demandait aux Rwandais d'approuver une révision de la Constitution. La nouvelle loi suprême permettra au président Paul Kagame de se présenter pour un nouveau mandat en 2017 et de potentiellement diriger le pays jusqu'en 2034. Pour l'analyse, Eric Manirakiza a joint en France le journaliste écrivain spécialiste des Grands Lacs, Jean-François Dupaquier.
On peut dire d'abord que c'est une forme de plébiscite puisque avec un résultat qui dépasse les 98% je crois de oui, c'est une adhésion absolument massive au oui qui était proposé de la modification de la durée des mandats présidentiels. Et même si la question n'est pas posée en ces termes, c'est bien sûr une demande de reconduction des mandats de Paul Kagame.
Le président Paul Kagame s'est adressé à la nation aujourd'hui. Il a dit « Personne n'est là pour toujours, mais il n'y a pas de limite de durée pour les valeurs, les institutions ou le progrès. Quand viendra le temps de transférer les responsabilités, les Rwandais sont déjà confiants que cela se fera. » Mais il n'a pas dit qu'il se représenterait en 2017. Quelle est l'interprétation que vous donnez à ce message?
On sait que ces dernières années, une réflexion a été engagée au sommet du pouvoir sur la perspective de modifier la Constitution pour prolonger le mandat de Paul Kagame. Lui-même, semble-t-il, était relativement hésitant et sa famille, notamment son épouse Jeannette Kagame, était assez hostile à cette idée. Je crois qu'il n'était pas parti pour durer, comme on peut dire, et qu'il s'est trouvé qu'il n'y a pas eu d'alternative qui s'est dégagée ces derniers mois, notamment dans les espoirs que Paul Kagame mettait dans une ou l'autre personne qui aurait été susceptible de lui succéder. Donc, ce n'est pas forcément la solution qu'il avait choisie initialement, mais elle s'est imposée au fil du temps.
Est-ce que l'on peut parler d'une erreur politique, stratégique, qui pourrait déboucher à une déstabilisation à long terme?
L'erreur serait de laisser le Rwanda replonger dans les démons du passé. On voit bien que la culture du génocide, pour employer un terme un petit peu général, c'est-à-dire la capacité à aller au-delà du traumatisme terrible de 1994, n'est pas complètement guérie, qu'il y a encore aujourd'hui des problèmes de mémoire et de mémoire collective, même si la justice est largement passée, l'adhésion à une société rwandaise nouvelle qui fait fi de l'ethnisme n'est pas un acquis définitif. Et donc, une partie du travail reste à faire. Et visiblement, c'est ce qui préoccupe Paul Kagame et les personnes qui l'entourent.
Le journaliste écrivain Jean-François Dupaquier, joint en France.
La Voix de l'Amérique à Kigali, au Rwanda, sur 104.3 FM.
Nous partons maintenant au Togo. Il y a près d'un an, le 26 décembre 2014, conformément aux recommandations de la commission Vérité, Justice et Réconciliation, le président togolais Faure Gnassingbé procédait à la nomination des membres du Haut Commissariat à la Réconciliation et au Renforcement de l'Unité Nationale. L'heure de s'attaquer au travail proprement dit a sonné, dit-on, dans les coulisses de cette institution à Lomé. Reportage de notre correspondante Kayi Lawson.
Un an après sa mise en place, le Haut Commissariat à la Réconciliation et au Renforcement de l'Unité Nationale HCRUN s'est doté d'un plan stratégique triennal pour accélérer la mise en œuvre des recommandations de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation, CVJR. Manaf Alpha Boukari du comité technique du HCRUN.
Nous avons finalement rassemblé les 68 recommandations de la CVJR autour de trois axes essentiels. Alors, nous avons un premier axe qu'on a appelé mobilisation, appropriation et adhésion, qui est très axé sur la sensibilisation et la formation. Ensuite, le second axe qui est celui des réparations proprement dites. À ce niveau, nous avons aussi deux volets. Il y a le volet des réparations matérielles et des réparations immatérielles. En prenant en compte tout ce qui relève des réparations collectives, c'est-à-dire des communautés qui ont été défavorisées en main donnée par une politique donnée, et nous avons les individus qui doivent être pris en charge, qui doivent être accompagnés.
Au niveau de l'AS 3 de ce plan stratégique, figure la réforme institutionnelle et constitutionnelle avec comme sous-basma la garantie de non-répétition. Awanana Dabouya, présidente du HCRUN.
La garantie de non-répétition, nous l'avons inscrite comme conséquence de l'activité que nous allons mener sur les réformes institutionnelles et constitutionnelles, de manière que, avec l'adhésion et la compréhension de tout un chacun sur le concept de réforme, la réflexion une fois menée, nous puissions énoncer à l'endroit du gouvernement des mesures à prendre pour que le plus jamais ça ne se répète.
Le plan du Haut Commissariat à la Réconciliation et au Renforcement de l'Unité Nationale s'étale sur la période 2016-2018 et la tâche ne sera pas aisée, reconnaît Manaf Alpha Boukari, vu le degré de scepticisme des Togolais.
C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'actes manqués, il y a eu beaucoup d'occasions ratées, beaucoup de promesses non tenues pendant longtemps à divers endroits ou des promesses qui ont pris du temps. Et donc, ce réflexe de pessimisme, de scepticisme-là, c'est ancré dans l'opinion publique. Maintenant, le défi, c'est de faire en sorte que de plus en plus la conscience puisse revenir. Et ça aussi, c'est un enjeu pour la réconciliation. Il faut que les Togolais recommencent à se faire confiance et que les institutions recommencent à inspirer confiance.
Le HCRUN s'est donné comme slogan « Vivre ensemble, une nécessité ». Pour amener les Togolais à se retrouver, le chantier qui attend les commissaires demeure vaste. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Muntou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
La fin de cette édition à la mise en onde de Michel. Non, c'était Lionel Gaïma.
Il ne ressemble du tout pas à
pas
Michel.
Pas du tout. Présentation, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Oui, il n'a même pas de cheveux. C'est ainsi va le monde aujourd'hui. Et merci Lionel, merci tout le monde. On reste ensemble sur Facebook et sur voafrique.com.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.